Allez savoir ce qui se passe dans cette cervelle trouée comme un fromage. Pourquoi cette discrimination? Pourquoi accorde-t-il la confession à l'écuyer tranchant qui a levé son couteau contre lui? Aujourd'hui encore, les assistants, quand ils parlent entre eux de cette heure terrible, s'interrogent sur cette étrangeté du roi. Voulait-il établir que les degrés dans la faute suivent la hiérarchie féodale et signifier que l'écuyer qui a forfait est moins coupable que le chevalier? Ou bien était-ce parce que le coutelas brandi vers sa poitrine lui a fait oublier que Doublel était aussi parmi les assassins de Charles d'Espagne, comme Mennemar et Graville? Mennemar, un grand efflanqué qui se démène dans ses liens et promène des yeux furieux. Graville, qui ne peut pas faire le signe de croix, mais bien ostensiblement murmure des prières. Si Dieu veut entendre son repentir, il l'entendra bien sans intercesseur. Le capucin, qui commençait à se demander ce qu'il faisait là, se saisit en hâte de l'âme qu'on lui laisse et chuchote du latin dans l'oreille de Colin Doublel. Le roi des ribauds pousse le comte d'Harcourt devant le billot. « Agenouillez-vous, messire. » Le gros homme s'affaisse comme un bœuf. Il remue les genoux, sans doute parce qu'il y a des graviers qui le blessent. Le roi des ribauds, passant derrière lui, bande ses yeux par surprise, le privant de regarder les nœuds du bois, cette dernière chose du monde qu'il aura eue devant lui. C'était plutôt aux autres qu'on aurait dû mettre un bandeau, pour leur épargner le spectacle qui allait suivre. Le roi des ribauds, c'est curieux tout de même que je ne retrouve pas son nom. Je l'ai vu à plusieurs reprises auprès du roi, et je revois très bien sa mine, un haut et fort gaillard qui porte une épaisse barbe noire. Le roi des ribauds prit la tête du condamné à deux mains, comme une chose, pour la disposer ainsi qu'il fallait, et partager les cheveux pour bien dégager la nuque. Le comte d'Harcourt continuait de remuer les genoux à cause des graviers. « Allez, taille !» fit le roi des ribauds. Et il vit, et tout le monde vit, que le bourreau tremblait. Il n'en finissait pas de soupeser sa grande hache, de déplacer ses mains sur le manche, de chercher la bonne distance avec le billot. Il avait peur. Non, il aurait été plus assuré avec un poignard dans un coin d'ombre, mais une hache pour ce malingre, et devant le roi et tous ses seigneurs et tous ses soldats. Après plusieurs mois de prison, il ne devait pas se sentir les muscles bien solides, même si on lui avait servi une bonne soupe et un gobelet de vin pour lui donner des forces. Et puis on ne lui avait pas mis de cagoule, comme cela se fait d'ordinaire, parce qu'on n'en avait pas sous la main. Ainsi, tout le monde saurait désormais qu'il avait été bourreau, criminel et bourreau, de quoi faire horreur à n'importe qui. À savoir ce qui lui tournait dans la tête à celui-là aussi, à ce Bétrouve qui allait gagner sa liberté en accomplissant le même acte que celui qu'il avait conduit en prison. Il voyait la tête qu'il avait à trancher à la place où il aurait dû avoir la sienne un peu plus tard, si le roi n'était pas passé par Rouen. Peut-être y avait-il chez ce gredin plus de charité, plus de sentiment de communion, plus de lien avec son prochain qu'il n'y en avait chez le roi. « Taille !» dut répéter le roi des ribauds. Le Bétrouve leva sa hache, non pas droit au-dessus de lui comme un bourreau, mais de côté, comme un bûcheron qui va abattre un arbre, et il laissa la hache retomber de son propre poids. Elle tomba mal. Il y a des bourreaux qui vous décollent un chef en une fois, d'un seul coup, bien frappé, et pas celui-là, ah non. Le comte d'Harcourt devait être assommé car il ne bougeait plus les genoux, mais il n'était pas mort, car la hache s'était amortie dans la couche de graisse qui lui tapissait la nuque. Il fallut recommencer, encore plus mal. Cette fois, le fer n'entama que le côté du cou. Le sang jaillit par une large plaie béante qui laissait voir l'épaisseur de la graisse jaune. Le Bétrouve luttait avec sa hache dont le tranchant s'était fiché dans le bois du billot et qu'il ne pouvait plus en ressortir. La sueur lui coulait sur la figure. Le roi des ribauds se tourna vers le roi avec un air d'excuse, comme s'il voulait dire « ce n'est pas ma faute ». Le Bétrouve s'énerve, n'entend pas ce que les sergents lui disent, refrappe, et l'on croirait que le fer tombe dans une motte de beurre. Et encore, le sang ruisselle du billot, gicle sous le fer, constelle la côte déchirée du condamné. Des assistants se détournent, le cœur soulevé. Le dauphin montre un visage d'horreur et de colère, il serre les poings, ce qui lui fait la main droite toute violette. Louis d'Harcourt blême, se contraint de rester au premier rang devant cette boucherie qu'on fait de son frère. Le maréchal déplace les pieds pour ne pas marcher dans la rigole de sang qui sinue vers lui. Enfin, à la sixième reprise, la grosse tête du comte d'Harcourt se sépara du tronc et, entourée de son bandeau noir, roula au bas du billot. Le roi ne bougeait pas. Par sa fenêtre d'acier, il contemplait, sans donner marque de gêne, d'écœurement ni de malaise, cette bouillie sanglante entre les épaules énormes, juste en face de lui, Et cette tête isolée, toute souillée, au milieu d'une flaque poisseuse. Si quelque chose parut sur son visage encadré de métal, ce fut un sourire. Un archer s'écroula dans un bruit de ferraille. Seulement alors le roi consentit à tourner les yeux. Cette mauviette ne resterait pas longtemps dans sa garde. Périnet le buffle se détendit en soulevant l'archer par le col de son gambison et en le giflant à toute volée. Mais la mauviette, par sa pâmoison, avait rendu service. Chacun se reprit un peu. Il eut même des ricanements. Trois hommes, il n'en fallut pas moins, tirèrent en arrière le corps du décapité. « Au sec ! Au sec !» criait le roi des ribauds. Les vêtements lui revenaient de droit, n'oublions pas. Il suffisait qu'ils fussent déchirés. Si de surcroît ils étaient trop maculés, ils n'en tireraient rien. Déjà, il avait deux condamnés de moins qu'il n'escomptait. Et pour la suite, il exhortait son bourreau, tout suant et soufflant, lui prodiguait ses conseils comme un lutteur épuisé. « Tu montes droit au-dessus de toi, et puis tu ne regardes pas ta hache, tu regardes où tu dois frapper, à mi-col, et en !» Et de faire mettre de la paille au pied du billot pour sécher le sol, et de bander les yeux du sire de Graville, un bon normand plutôt replet, de le faire agenouiller, de lui poser le visage dans la bouillie de viande. Taille ! Et là, d'un coup, miracle, Bétrouve lui tranche le col et la tête tombe en avant, tandis que le corps s'écroule de côté, déversant un flot rouge dans la poussière. Et les gens se sentent comme soulagés. Pour un peu, ils féliciteraient le Bétrouve, qui regarde autour de lui, stupéfait, l'air de se demander comment il a pu réussir. Vient le tour du grand déhanché, de Maubuée de Mennemar, qui a un regard de défi pour le roi. « chacun sait, s'écrie-t-il. » Mais, comme le barbu est devant lui et lui applique le bandeau, sa parole s'étouffe et nul ne saisit ce qu'il a voulu proférer. Le maréchal de Drohem se déplace encore parce que le sang avance vers ses bottes. « Taille ! » Un coup de hache, à nouveau, un seul, bien asséné, et cela suffit. Le corps de Mennemar est tiré en arrière, auprès des deux autres. On délie les mains des cadavres pour pouvoir les prendre plus aisément par les quatre membres, les balancer et hisse les jeter dans la première charrette qui les emmène jusqu'au gibet pour être accrochés au charnier. On les dépouillera là-haut. Le roi des ribauds fait signe de ramasser aussi les têtes. Bétrouve cherche son souffle, appuyé sur le manche de la hache. Il a mal aux reins, il n'en peut plus. Et c'est de lui, pour un peu, qu'on aurait pitié. Ah, il les aura gagnés, ces lettres de rémission. Si jusqu'à la fin de ses jours il fait de mauvais rêves et pousse des cris dans son sommeil, il ne lui faudra pas s'en étonner. Colin Doublel, l'écuyer courageux, était nerveux, quoique absous. Il eut un mouvement pour se dégager des mains qui le poussaient vers le billot. Il voulait y aller seul, mais le bandeau est fait justement pour éviter cela, les gestes désordonnés des condamnés. On ne put pas empêcher toutefois que Doublel ne releva la tête au mauvais moment et que Bétrouve, là vraiment ce n'était pas sa faute, ne lui ouvrit le crâne par le travers. Allons, encore un coup, voilà, c'était fait. Ah, ils en auraient des choses à raconter, les Rouennais qui étaient aux fenêtres environnantes, des choses qui allaient vite se répéter de bourg en bourg, jusqu'au fond du duché. Et les gens allaient venir de partout contempler cette place qui avait bu tant de sang. On ne croirait pas que quatre corps d'hommes puissent en contenir autant et que cela fasse une si large marque sur le sol. Le roi Jean regardait son monde avec une étrange satisfaction. L'horreur qu'il inspirait en cet instant, même à ses serviteurs les plus fidèles, n'était pas, semblait-il, pour lui déplaire. Il était assez fier de soi. Il regardait particulièrement son fils aîné. « Voilà, mon garçon, comment on se conduit quand on est roi. » Qui aurait osé lui dire qu'il avait eu tort de céder à sa nature vindicative ? Pour lui aussi, ce jour était celui de la bifurcation. Le chemin de gauche ou le chemin de droite ? Il avait pris le mauvais, comme le comte d'Harcourt au pied de l'escalier. Après 6 ans d'un règne malaisé, plein de troubles, de difficultés et de revers, il donnait au royaume, qui n'était que trop prêt à l'y suivre, l'exemple de la haine et de la violence. En moins de 6 mois, il allait dévaler la route des vrais malheurs, et la France avec lui.